Nu lyser ängarna av sommarns alla blommor. Nu surrar bin och fåglar sjunger överallt. Nu stryker vinden genom trädens höga kronor. Men i min trädgård är det visst mörkt och kallt.
Bonjour. Vous allez entendre l'émission Invisible, la seule émission de télévision uniquement diffusée par la radio. Installez-vous devant votre fenêtre, allumez votre poste de télévision et coupez le son, feuilletez un livre illustré, courez à la première exposition venue de peinture ou de photographie, ou, si vous êtes en voiture ou en train, observez attentivement le paysage. Vous avez les images, nous apportons le son.
Ett liv i synd och utan omsorg att bli frälst. Försonad med min karaktär, för jag har aldrig förmått att säga nej till någonting som helst.
Cette émission est réalisée et présentée par Alain Brouche.
Det ena eller andra och levat livet tills jag krossades en dag. Det börjar med att du bedrog mig med en annan, en som du sa var mycket finare än jag.
Pour commencer cette émission, miroir d'astrologie d'après les textes de Max Jacob et Claude Valence, publiés chez Gallimard en 1949.
Le signe astrologique des Poissons, du 21 février au 21 mars, deuxième domicile de Jupiter et domicile de Neptune dans la triplicité d'eau. La dame des Poissons, c'est une pauvre bonne sans ambition. Elle fait son humble besogne dévouée à ses maîtres au point de leur ressembler. Elle a adopté leur caractère, leur but dans la vie. Elle se réjouit quand ils se réjouissent. Elle est chagrin quand ils le sont. Elle se tait généralement. Mais si une personne qui fréquente la maison s'intéresse à elle, alors c'est un flux intarissable de paroles, de gémissements, de plaintes sur son sort. Moi, qui n'aurais jamais fait de mal à une mouche, voilà ce qu'on m'a fait. C'est vrai que je ne suis pas grand-chose quand on pense, n'est-ce pas, monsieur, un monsieur qui fait tout et qui est un homme si bien, si intelligent, n'est-ce pas? On a beau tout de même savoir qu'on est un vrai rien, ça fait de la peine, n'est-ce pas? Le malheur est le malheur, enfin. À la grâce de Dieu, il faut se résigner. Dans une autre place, vous la verrez très différente. Souillon chez les souillons, elle deviendra coquette chez une coquette, s'habillera à la dernière mode comme madame. Chez un prêtre, elle sera confite en onction et en componction. Bonne chez un membre de l'Institut, elle dira « Nous en sommes à la lettre C du dictionnaire. Nous ne pensons pas que Monsieur X ait des chances pour être élu. Moi, n'est-ce pas, je ne puis rien dire. Je ne suis qu'une malheureuse domestique. » La patronne dit d'elle « Aux maisons, on ne la connaît pas. Ma bonne est une grande mystique, savez-vous. Elle prétend que les saints lui parlent. Elle a le don des larmes. Quand elle n'est pas au cinéma, elle est à l'église ou dans sa chambre à lire. Et puis, il faut la voir le dimanche. Elle s'habille. Elle est d'une coquetterie extraordinaire. Pas de milieu pour elle. Ou un souillon ou une princesse. Surtout, ne la faites pas parler. Vous ne vous en sortiriez pas. Elle vous racontera les splendeurs de toutes les maisons où elle est passée avec une admiration enfantine. Ou bien, elle vous parlera des somnambules qu'elle a consultées et dont aucune ne s'est trompée. Ici, nous la considérons comme une silencieuse. Mais la concierge et les autres bonnes se plaignent de son bavardage. En somme, c'est une excellente personne. Les dames du poisson du deuxième décan. Ce qui m'émeut dans Paris, c'est qu'on rencontre des gens célèbres, même sans s'en douter. Tous ces grands hommes, toutes ces fortes têtes. Croyez-vous, hein? Il y en a des choses dans ces cervelles. Du temps des boulevards, j'étais employé dans une bijouterie. J'aimais bien toutes ces choses de valeur. Eh bien, mon plaisir, c'était de passer voir les gens célèbres. Le patron les connaissait, il me les nommait. « Tiens, dit-il, voilà monsieur Alphonse Allais, il va prendre son pernod au napolitain. » Ou bien, on voyait passer monsieur de Max en voiture avec son grand chien. Il y avait aussi monsieur Jean Lorrain en train de faire des achats plein son fiacre. Ou bien, monsieur Catulle Mendès qui emmenait dîner mademoiselle Moreno au café américain. Monsieur Courteline avait un petit chapeau boléro. Et madame, monsieur la jeunesse avec sa moue et ses breloques, ah monsieur, c'était mon bonheur de les voir. J'aurais voulu les questionner, savoir comment l'inspiration leur venait. Quand j'apprenais qu'ils étaient pauvres, j'aurais voulu m'occuper d'eux. Oh, bien sûr, pas leur donner moi-même, car je n'étais pas une grosse bourgeoise, comme je suis maintenant grâce à mon mari, mais leur trouver du travail ou des capitaux. J'ai dit une fois à un de nos clients, monsieur Jacques Doucet, un grand aussi de ce temps-là. Il y a ce pauvre monsieur la jeunesse qui a bien du mal. Croiriez-vous que monsieur Doucet lui a donné 5 francs? En anonyme, bien sûr, pour ne pas le froisser. Ça a été le plus beau jour de ma vie. Quand monsieur Doucet m'a dit, j'ai envoyé 500 francs à votre protégé. Vous me croirez si vous voulez. J'étais en train de lui montrer des bagues pour un cadeau qu'il voulait faire à madame Réjeanne. Quand il m'a dit ça, j'ai sorti mon mouchoir, j'ai pleuré. Monsieur Doucet a dû penser que j'étais amoureuse de monsieur la jeunesse. Penser amoureuse d'un auteur, quand même, il était bien laid et sale. Mais qu'est-ce que ça fait pour un génie, n'est-ce pas? Moi, amoureuse d'un auteur, moi, pauvre employé toujours debout derrière le comptoir. J'ai ri après, oui, oh, j'étais bien heureuse. Après, j'ai perdu ma place, j'étais coursière. Eh bien, en marchant, je pensais à tous ces grands génies. Maintenant, vous voyez, j'ai beaucoup de livres. C'est tout, des vies romancées, des biographies, des mémoires. Voilà mon plaisir. Oh, ce n'est pas que je sois jalouse d'eux comme une pauvre bourgeoise serait, elle. Jalouse? Non, moi je les aime. Je les aimerai jusqu'à la mort. J'ai aimé les grands hommes dès mon enfance. Une bonne fée me dirait, tu vas recommencer ta vie, que veux-tu être? Je lui répondrai, je veux être l'égérie d'un grand penseur, le pousser, faire des copies pour lui. Ah, vous me trouvez bien ridicule, avec mon peigne ouaté, mes pantoufles usées, de vous dire des choses pareilles. Bon, j'ai eu tant de mal dans la vie, je n'ai plus la force d'être coquette que pour mon mari. Il y a bien le bon Dieu, certainement que j'y crois, mais c'est l'âme qu'il veut. Ça lui est bien égal, les peignoirs sales et les pantoufles. Mon premier mari, lui, il voulait que je sois coquette. Il me battait, il buvait. Je me suis enfuie la nuit dans la campagne avec mon enfant dans les bras, abandonnant tout ce qui était à moi. J'ai trouvé celui-ci qui est bien plus raisonnable. Il m'a épousée un peu par pitié. Et je l'aime, comme un abri. Oh, je ne suis pas fière. J'accepte son aumône comme les apôtres acceptaient l'aumône. Mais je suis honnête. Et je lui tiens bien son intérieur. Je l'agace parce que je pleurniche un peu trop facilement. Alors je me force à être gaie. Et puis, il n'aime pas que je lui parle de Dieu, des grands hommes et des génies. Alors, quand j'ai envie de lui parler comme je vous parle à vous, je me pince le bras pour me taire. Pensez, monsieur, cet homme-là, je lui dois tout, alors que je lui dois bien quelques petits sacrifices. Ma mission sur terre, c'est la reconnaissance pour cet homme-là. Il aime les enfants. Je n'en ai pas eu, alors j'en ai adopté 2. Il aime la gaieté, et moi je suis plutôt triste, n'est-ce pas, après la vie que j'ai eue avec mes pertes d'argent et mon premier mari. Alors je me force à rire, à chanter, Je mets le phonographe à l'heure où il rentre. Il n'aime pas les fleurs. Oh, j'aimais bien les fleurs, jadis. Il n'entre plus une fleur ici. Je m'efforce même de monter sur les montagnes pendant les vacances, puisqu'il aime ça. Et je ne dis jamais que je suis fatigué. Lui, il ne se doute de rien, tenez. J'aimais faire les cartes. Jadis, c'était ma passion. Un jour, il m'a dit, « Alors, tu crois à toutes ces bêtises, Agathe ?»« Ça a suffi, monsieur. J'ai brûlé mon tarot. » Il s'en est aperçu, il m'a dit, « Mais tu es bonne !»« Non, je ne suis pas bonne. Je suis même plutôt dure. Mais je n'aime pas faire de la peine. Je ne peux pas voir souffrir les autres. »
No coração, quadro bancado, se te fosse bicho, pode escrever, não falha não, a tentação de ser muito feliz. Quando bater no coração, quadro bancado, se te fosse bicho, pode escrever, não falha não, a tentação de ser muito feliz. Por isso eu vou me ser o anel de quatro toques, carregadinho de premonição. Ele não deixa que a batida se desloque, é que essa face do seu coração. Pra quem compôs, pra quem tocou e pra quem ouve, é um destino que sempre se quis. É uma quinta sinfonia de Beethoven que ele cantou e se ficou raiz. Deu pra sentir na certidão do tic-tac do seu coração. Deu pra entender que esse vaião de quatro toques tanto, 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 tanto que se tornou a tentação de ser paz e ser assim feliz. Quando até no coração o quadro bancado se deu pós um bicho, pode escrever, não falha não, a tentação de ser muito feliz. Quando até no coração o quadro bancado se deu pós um bicho, pode escrever, não falha não, é tentação de ser muito feliz. Por isso eu vou me ser baião de quatro toques, carregadinho de premonição. Ele não deixa que a batida se desloque, é que só faça do seu coração. Pra quem compôs, pra quem tocou e pra quem ouve, é um destino que sempre se quis. É uma quinta sinfonia de Beethoven que ele cantou e sempre foi o rei. Pra se sentir na certidão do tic-tac do seu coração. Pra entender que esse baião de quatro toques, tanto, 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 que se tornou a tentação de ser paz e ser assim feliz. bater num coração quatro pancadas e depois um bicho. Pode escrever, não falha não. É a tentação de ser muito feliz.
Quando bater num coração quatro pancadas e depois um bicho. Pode escrever, não falha não. É a tentação de ser muito feliz. Por isso comecei vai eu de outro toque. Carregadinho de premonição. Ele não deixa que a batida se desloque. E que só faça do seu coração. Pra que compôs, pra que tocou e pra que ouve. É um destino que sempre se quis. É uma linda sinfonia de Beethoven. Que ele cantou e só ficou mais. Pra
seguinte, na certidão. Do tic-tac do seu coração. Da plantinha bem que se laiou. De quatro toques, tanto, que se tornou a tentação de ser pai, se ser assim, feliz. De ser pai, se ser assim, feliz. De ser pai, se ser assim, feliz.
Le cabinet de curiosité vous présente aujourd'hui l'écrivain et compositeur américain David Woodard. Il est né le 6 avril 1964 à Santa Barbara, en Californie. Du côté paternel, l'ancêtre de Woodard est Frances Lassam, qui s'est installée en 1638 sur l'île Aquidneck, aujourd'hui Portsmouth, dans l'état de Rhode Island. À travers elle, Woodard descendrait des rois européens Harald Ier de Danemark, Alfred le Grand et Boleslav Ier de Bohême. David Woodard a vécu à New York, San Francisco et Lawrence, dans le Kansas, avant de s'installer à Los Angeles. En plus de composer, il a longtemps gagné sa vie en construisant et en vendant des répliques de la Dream Machine de Brian Gysin. Conçu en 1959 par cet artiste britannique, les Dream Machines consistent en un cylindre de métal ou de carton percé d'orifices réguliers et tournant autour d'une lampe. On doit approcher le visage du tube et fermer les yeux pendant qu'il tourne, projetant ainsi sur les paupières des éclats de lumière stroboscopique. Gysin et son ami William Burroughs, l'écrivain William Burroughs, prétendaient que la Dream Machine avait des vertus proches de celles du LSD. Kurt Cobain lui en aurait acheté un exemplaire et une rumeur veut que la Dream Machine ait joué un rôle dans son suicide. C'est que Woodard ne démentira pas. Un exemplaire réalisé pour Burroughs par David Woodard est exposé au musée d'art Spencer de Lawrence, au Kansas. Chef d'orchestre et directeur musical des services commémoratifs de la ville de Los Angeles, Woodard a dirigé en 2001 une cérémonie au funiculaire de Angel Flights, en mémoire de la victime d'un accident et de sa veuve blessée à cette occasion. Il a également interprété un requiem pour un pélican brun de Californie, décédé sur une plage. Pour la circonstance, il a dirigé l'orchestre non avec une baguette comme il est de coutume, mais avec une pince métallique. Et il s'est vraiment fait connaître en composant ce qu'il appelle des préquiem, c'est-à-dire des musiques funèbres que l'on interprète juste avant la mort ou pendant la mort de quelqu'un, et non après, comme c'est le cas pour un requiem. C'est au cours des années 90 qu'il a inventé le terme pour décrire sa pratique bouddhiste de composer de la musique dédiée à être interprétée pendant ou légèrement avant la mort de son sujet. Le premier préquiem est sans doute Ave Atque Vale, initialement écrit pour le docteur Kevorkian alors que ce médecin entamait une grève de la faim pour protester contre son incarcération. Également connu sous le nom de docteur Death, docteur mort, ce médecin pratiquait l'aide au suicide dans les cas médicaux graves. La décision de Kevorkian de mettre fin à sa grève et de purger ses 10 ans de prison avait naturellement annulé le concert, mais Woodard avait conservé la partition. Il semble juste qu'un requiem devrait être apprécié par le sujet mourant afin de l'empêcher de devenir une entreprise égoïste des survivants, déclarait Woodard en décrivant sa foi comme une croyance inébranlable en la vie après la mort et dans le monde des esprits qui nous entoure constamment. En 2001, Ave Atque Vale a néanmoins trouvé l'occasion d'être produit en public lorsque Timothy McVeigh, auteur de l'attentat d'Oklahoma City en 1995, a demandé à Woodard de diriger une messe préquiem pour son exécution. Tout en reconnaissant l'acte horrible de McVeigh, qui avait tué 168 personnes, mais dans l'intention de réconforter le condamné, Woodard a consenti et fait interpréter la coda de son préquiem la veille de son exécution par un ensemble de cuivres à l'église Sainte Margaret Mary, près de la prison de Terre Haute dans l'Indiana, et devant les témoins convoqués le lendemain pour l'exécution. L'archevêque Daniel Buchlein, plus tard le cardinal Roger Mahony, ont demandé au pape Jean-Paul II de bénir la partition complète de Woodard. C'est ainsi que Ave Atque Vale a été également interprété par un petit orchestre au Vatican. Nous allons maintenant écouter une pièce courte de lui, enregistrée dans son appartement, sans matériel spécifique. La qualité du son n'est pas assez bonne pour que l'on puisse entendre correctement le numéro de claquette qu'il interprète au milieu de son morceau. L'auditeur voudra bien nous en excuser.
Scary, scary monsters and super creeps keep me running scared. Scary, scary monsters and super creeps keep me running scared. She had a horror of rooms, she was tired, you can't hide beat. When I looked into her eyes, they were blue, but nobody home. Well, she could have been a killer if she didn't walk the way she do, and she do. She opened strange doors that will never close again. Scary, scary monsters, super creeps, keep me running scared. She asked me to stay, and I stole her room. She asked for my love, and I gave her a dangerous mind. Now she's stupid in the street, and she cannot socialize. Well, I love that little girl, and I love her till the day she dies. Scary, scary monsters and super creeps. Gotta let them keep you running scared. Scary, scary monsters and super creeps. Keep me running scared.
Dans les années 2000, David Woodard découvrit la cité de Nueva Germania, au Paraguay, et effectua le voyage dans ce pays pour rencontrer les rescapés, ou du moins les descendants, de la cité utopique créée par la sœur de Nietzsche, Elisabeth Nietzsche, qui, avec son mari Bernard Förster, ont fondé et vécu dans la colonie entre 1886 et 1889. Raciste obsessionnel, Förster s'est en effet inspiré d'une déclaration de Wagner, pour se lancer dans le projet de fonder une communauté aryenne pure dans une région où il était certain qu'il n'existait aucun juif, la forêt paraguayenne. Il recruta quelques dizaines de familles saxonnes pauvres, volontaires pour fonder une colonie en Amérique latine. Malheureusement, le climat, les maladies telles que la malaria et la leishmaniose, la consanguinité, l'ignorance des techniques agricoles locales et la faim condamnèrent l'entreprise à l'échec. Elisabeth Förster Nietzsche rentra en Allemagne s'occuper de son frère mourant et son mari sombra dans l'alcoolisme avant de se suicider. Woodard visita donc Nueva Germania où il découvrit une maigre population dans un état de total délabrement. Élu en 2003 conseiller municipal de la ville de Juniper Hills, dans le comté de Los Angeles, Woodard proposa un jumelage avec Nueva Germania. L'énergie qu'il déploya lui permit de réunir 12 500 dollars de médicaments pour la colonie et le soutien écrit du vice-président américain de l'époque, Dick Cheney. En 2004, il composa l'hymne choral Our Jungle Holy Land, notre terre sainte de la jungle, et il mena plusieurs expéditions dans les années qui suivirent à Nueva Germania. Il imagina même bâtir un opéra sur le modèle de celui de Bayreuth, à l'emplacement de la maison où vécut le couple Försternich et où il comptait faire donner les opéras de Wagner. Pour finir, il faut ajouter que David Woodard est l'inventeur d'une machine théorique qui pourrait être l'exact opposé de la Dream Machine, le Feraliminal Lycanthropiseur. Il s'agit selon lui d'une machine psychotechnographique qui génère une vibration appelée onde thanatophorique en combinant trois ondes sinusoïdales infrasonores, 3 Hz, 9 Hz et 0,56 Hz, avec des boucles de bandes de texte parlées non spécifiées. Woodard décrit la machine comme un générateur d'ondes thanatophoriques à basse fréquence, qui est connu pour son utilisation par les nazis et pour ses effets animalisants sur les sujets humains testés dans une proximité vibratoire mesurable. La machine créerait la violence et le désir sexuel. En Allemagne et au Népal, David Woodard est connu pour ses contributions à la revue littéraire Der Freund, y compris des écrits sur le karma interspécifique, la conscience végétale et la colonie paraguayenne de Nueva Germania.
Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. La belle vie, on est seul, on est libre et l'on traîne. On s'amuse à passer avec tous ses copains. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste et l'on traîne. Alors pense que moi je t'aime, et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là pour toi.
Et c'est maintenant l'heure de retrouver Marc Mercier et le bulletin d'écoute d'Armand Robin.
janvier 1961, bulletin numéro 4. La situation politique internationale d'après les radios en langue étrangère. Dernière heure, 20 minutes de la radio de Moscou est consacrée au progrès de la production en Ukraine. Changement d'aspect de la situation politique internationale, l'aspect nouveau que prend le monde. Il est certain qu'un des principaux dirigeants de la RTF avait raison, il y a quelques mois, de me conseiller de prendre de temps en temps de la distance vis-à-vis des propagandes mondiales. En ce début d'année, j'ai repris les écoutes de nuit, lesquelles sont de très loin les plus importantes. Le résultat auquel j'ai eu quelque mal à m'adapter est le suivant. Écoute des radios du monde russe, de la très officielle Voix de l'Amérique, etc., etc. Tout devient régionaliste, voire provincial. C'est la fin des idéologies de caractère général, sauf dans les émissions de la BBC ou dans les émissions de tout petit pays. Je choisis quelques illustrations de cette évolution en cours. La Voix de l'Amérique, expression très officielle, je le répète, du département d'État, vient de développer considérablement, plusieurs heures par nuit, heure d'Europe, ses émissions en ukrainien. Ces émissions prennent l'aspect d'émissions locales de la radio de Kiev. C'est incroyable, mais vrai. Pendant ce même temps, les émissions de la centrale russe de Moscou, dans le cadre des nouvelles économiques culturelles, etc., etc., exaltent l'Ukraine, terre natale de notre cher S.N. Khrouchtchev, etc., etc. Cette nuit encore, j'ai écouté la radio de l'URSS, pardon, de l'URSS ukrainienne. Oui, nous y sommes. Vanter les mérites de l'Ukraine et uniquement de ce pays de la Russie d'Europe. Pas un seul mot de propagande en tous ces longs textes. La seule compensation à ce régionalisme ukrainien qui envahit les radios mondiales est la place de plus en plus grande chaque jour occupé en ces radios par les républiques, républiques seulement. Le terme socialiste et le terme soviétique sont évités. On y célèbre l'Arménie, le Turkménistan, l'Afghanistan, etc., etc. On y célèbre avant tout l'Arménie, la terre natale de Mikoyan. Radio Pékin annonce qu'elle prépare, elle aussi, des émissions en langue ukrainienne. Sur le tout de l'auditeur a, en début de 1961, l'impression qu'il ne subsiste presque plus rien des principes politiques admis comme tels par l'Europe occidentale. Il faut, si on est à l'écoute du monde entier, se remettre à de tout autres explications. Le matérialisme du régionalisme est en train de tout envahir. Des radios comme la radio de Prague, laquelle aussi annonce qu'elle va émettre en ukrainien, elle aussi, en profite abondamment pour faire l'éloge des produits commerciaux tchèques, en ses puissantes et nombreuses émissions en anglais et en espagnol pour le continent américain. Qu'y a-t-il dans la tête de Kennedy ? Certes, Kennedy est d'ascendance irlandaise, et donc en tant que celte, je devrais pouvoir comprendre ce qu'il veut. Or, ces émissions, émissions de la Voix de l'Amérique, ne fournissent pour le moment aucune indication précise. À la veille du 19 janvier, date de sa prise officielle de pouvoir, on peut tout au plus noté sous les plus extrêmes réserves ceci. L'Europe occidentale n'a guère l'air d'intéresser Kennedy. Ce n'est pas l'isolationnisme nord-américain au sens traditionnel. Il s'agit d'une préférence donnée ouvertement à l'Afrique noire. Notamment, le Katanga occupe en ses radios plus de place que toute l'Europe occidentale, etc. À partir de ces trois nuits d'écoute de ces radios officielles nord-américaines, on peut, encore une fois sous les plus extrêmes réserves, mais je ne dois pas être bien loin de la réalité, imaginer le jeune proche président des USA se détourner de l'Europe occidentale, à commencer par Berlin-Ouest, pour s'occuper avant tout de la très fertile Afrique noire. Ce qui est curieux, mais fort logique, c'est que les radios du communisme russe, pendant tout ce temps, accordent une place extraordinaire au Katanga et au Rwandi Urugi, et en viennent à oublier l'affaire de Berlin-Ouest. L'Algérie. Le référendum etc., n'intéressant pas du tout les deux grandes radios mondiales. C'est laisse de côté, du moins relativement. L'auditeur finit par penser que le référendum organisé de façon expéditive par De Gaulle avait pour but réel de se donner les moyens de tenir tête à Kennedy. Étant donné la date officielle de prise de pouvoir par l'administration nouvelle des USA au 19 janvier, il fallait faire vite. Cependant, cette nuit, Moscou, très rapidement, d'après des dépêches venant de Tunis, condamne la comédie du référendum. Ce qui est plus intéressant, c'est que Moscou met l'OTAN en cause au sujet de l'Algérie. Moscou n'avait jamais jusqu'à présent avancé cette argumentation. Les services de Moscou ont-ils des raisons de penser que l'administration Kennedy pourrait songer à quitter l'Europe occidentale ?
Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles.
Vous pouvez maintenant fermer les volets, éteindre votre télévision, ranger votre livre illustré, car l'émission invisible s'achève.
Que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde, d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Ce jour-là, vous avez entendu aujourd'hui, par ordre d'apparition, Monica Zetterlund, Stella Cadente accompagnée par Carmen Cavallaro, Louise Titi et Zé Miguel, Mal Waldron, Richard Wagner, Marc Mercier, Sacha Distel et, en ce moment même, Juliette Armanet qui nous interprète Michel Legrand.
Comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux.
L'émission invisible a achevé son tour du soleil. Elle poursuit désormais son chemin dans l'immensité de la nuit. Cela a été un vrai bonheur de vous savoir avec nous, et c'est donc une grande tristesse de vous abandonner. Dans l'eau,
au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. As the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Merci.